Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imaginé par Binge Audio.
Trop souvent, l'annonce de ce que l'on appelle mauvaise nouvelle est synonyme de « il n'y a plus rien à faire ».
Même au milieu de la maladie, d'un regard extérieur, il y a de la vie.
Bien sûr, il faut se concentrer sur ses rêves, parce que la vie ne s'arrête pas à l'annonce de la maladie.
Je ne rêve plus d'une autre vie, ni d'absolu. Je ne souffre plus d'une cruelle souffrance inconnue. Je suis réconcilié avec mes envies oubliées, enfin libéré. Je peux me réinventer.
J'ai grandi dans la cité HLM de l'Aqua Boulevard à Paris 15e, exactement. J'étudiais pas, j'ai redoublé deux fois. Et j'ai très vite compris que la pâtisserie pouvait être un atout pour s'en sortir. Donc j'ai obtenu mon CAP et je rencontre la femme qui va devenir mon épouse et la femme de ma vie. Elle s'appelle Laure. Et à l'âge de 21 ans, en tout cas moi j'avais 21 ans et mon épouse 19 ans, elle est tombée enceinte. Donc très jeune, j'avais le rôle de papa. Alors à 28 ans, je travaille toujours de nuit en pâtisserie. Et alors je suis un peu plus fatigué que d'habitude. Laure commence à avoir des doutes, aussi simple que ça, j'arrive plus à manger. Et un jour, un soir, Laure me dit « Écoute, moi, je te sens trop fatigué, il faudrait qu'on aille aux urgences. » Et je suis un peu insouciant à l'époque et je lui dis « Non, non, mais je suis fatigué parce que je travaille de nuit. Ce soir, je vais bosser comme d'habitude. » Et là, elle insiste. Et là, en fin de compte, je lui dis « Ok, allez, t'as raison, on va aux urgences. » Et puis, de toute façon, on ressort d'ici une demi-heure. Et puis, je dors un petit peu et puis je vais au boulot. Aux urgences, je ne sais pas ce qui s'est passé, sur qui je suis tombé à l'époque. Je suis à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart et ils prennent mon cas au sérieux. Alors le premier réflexe de l'hôpital Antoine Béclair, c'est de m'avoir fait une prise de sang et une radio des poumons. À la radio des poumons, on s'aperçoit que j'ai une tache. Et le verdict tombe un jour après une biopsie de la masse que j'ai dans le poumon. En tout cas, on dit à mon épouse, moi, on ne me le dit pas. Et entre deux couloirs d'hôpitaux, on annonce à ma femme que j'ai un cancer. Alors moi, je ne sais rien de tout ça. Elle m'a protégé au maximum.
Moi, je trouve ça très drôle, en vrai.
Je suis transféré en
ambulance.
J'arrive en réa à Gustave Roussy.
Je ne sais pas que j'ai un cancer. On me présente mon lit.
Et ensuite, au bout d'une heure, un médecin vient me voir et m'annonce le verdict. Vous avez un cancer, Eric. On va éventuellement pouvoir me le soigner. Donc, je commence ma période de malade. Je sais que les gens de réanimation de Gustave Roussy savent que mon cas est désespéré. Je vais y revenir dessus. Mais ils m'autorisent tout. Ils veulent me mettre à l'aise. Eric, tu as besoin de quoi ? Eh ben moi, j'ai besoin de mes cassettes audio pour écouter mes albums de rap. Donc, pas de souci, on me branche un... Je crois que ça s'appelle un radiocassette. Et je peux écouter ma musique de rap. Donc déjà, premier élément, c'est bon, je navigue au milieu de ma musique, tout va bien. Et ensuite, Alors, j'ai pas des caprices de star, ni de gamin mal élevé, on me demande de quoi j'ai besoin. Alors je leur dis une PlayStation. Et ils font tout.
Ils font tout, Gustave Roussy, pour me trouver de quoi jouer en chambre de réa avec mes copains de cité. Bon, bref, moi, tout ce que je sais, c'est que je reçois l'info comme quoi ils font tout pour que le séjour se passe bien. Donc, je sais que j'ai un cancer, mais je ne sais pas qu'il est grave. Donc, la stratégie de Laure a été simple et efficace. Chaque personne qui rentre dans la chambre d'hôpital est briefée. Il est hors de question de le plaindre. Il est hors de question de pleurer, sinon c'est la dernière fois que tu le vois. On garde le sourire et on vit au jour le jour. Donc, on commence éventuellement les premiers traitements. Donc les premiers traitements à la base consistent à m'envoyer de la chimiothérapie, sauf que on s'aperçoit que j'ai un staphylocoque doré dans le sang. C'est-à-dire que la chimiothérapie ne peut pas être administrée. Donc je suis allongé, je commence là à être fatigué, à être malade. Je crois avoir perdu ma dignité à l'hôpital. Et moi, j'ai des souvenirs d'un gars qui faisait ma toilette. Et je le regardais avec un grand sourire parce que je me disais, putain, son boulot, il est pas facile. Moi, je me plaignais d'être pâtissier, le ciel n'est pas facile du tout. Pendant le staphylocoque doré, le cancer, il est entre le cœur et le poumon, c'est la région du médiastin. Et c'est un cancer dit fulgurant. Et c'est le cercle infernal. On annonce à ma femme, qui à l'époque a 26 ans, que son mari, il lui reste en théorie 6 mois d'espérance de vie. Il me sauve de 3 arrêts cardiaques. J'imagine l'enfer qu'elle a vécu. Ensuite, je fais une embolie cérébrale. Je deviens paralysé de tout le côté droit. Et un soir, je m'en rappellerai toute mon existence, Laure me donne à manger et j'ai cru voir le désespoir dans ses yeux. Et tout ce que je sais, c'est que je me suis dit, tu vas pas être un fardeau pour ta femme. Alors j'avais une stratégie simple qu'elle ignorait à l'époque, hein, quand elle partait, quand les toubibs n'étaient plus là. Je suis 1m87, les lits font 1m90. Je m'appuyais contre le rebord du lit et j'avais une idée obsessionnelle, c'est fais plier ta jambe. Fais plier ta jambe, parce que si ta jambe plie, tu n'es plus handicapé de ta jambe. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est mon mental, je ne sais pas si c'est à force d'appuyer, je ne sais pas si c'est leur traitement. Mais du jour au lendemain, j'étais plus paralysé. On s'aperçoit que le staphylocoque doré est traité et la chimiothérapie a fait en sorte de stopper la progression de la tumeur. Et ensuite, on commence à même la faire diminuer de taille. Je sais que je suis en train de perdre du poids à grande vitesse, je ne reconnais plus mon corps. Je perds des cheveux en pagaille. Et vu que je vois les gens sourire, pour moi, ce n'est pas si grave. C'est bien d'aller à l'hôpital avec un sourire, c'est bien de parler du quotidien à un malade, même à un mourant. Il faut qu'on soit rassuré. En fin de compte, je crois que l'être humain a besoin d'être rassuré constamment, en tout cas moi, d'entendre ce qui se passe en dehors de tout ça. C'est-à-dire que mon enfant grandit bien, qu'il est entouré de gens qui lui font faire ses devoirs tous les soirs. Moi, j'ai besoin de l'entendre à l'époque. Faut pas avoir des pensées négatives, faut être positif tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, en parlant de pensées d'un malade ou du malade que j'étais obsédé par les kebabs, ou ce qu'on peut appeler en région parisienne les grecs. Et je demandais alors, j'ai fait vivre l'enfer. Je lui demandais... Quand elle rentrait le soir, là, après son boulot, sa journée de boulot, elle avait déposé mon fils chez une copine. Elle rentrait dans la chambre d'hôpital, en réa, et je lui demandais un kebab. Et elle partait m'acheter le sandwich que je désirais, avec la sauce que je voulais, avec une petite sauce mayonnaise. Elle revenait avec la boisson que je nommerais pas, tout comme il fallait. En fin de compte, le repas idéal pour un malade à l'hôpital, en tout cas mon repas idéal, et rien que l'odeur, je vomissais. Et c'est pas grave, parce que j'avais ce moment de bonheur. Et tout ce que je sais, c'est que même en réanimation, on a des moments de bonheur. Donc, à un moment donné, la réanimation, c'est bien, mais il faut s'en sortir. Donc, j'ai cette chance-là. On nous monte en chambre dite normale. Et je vais revenir sur une chose. Quand on m'annonce que j'ai un cancer, je me plains pendant une journée, j'ose me plaindre. C'est-à-dire, pourquoi moi ? C'est hyper égoïste, quoi. Je me dis, pourquoi moi ? C'est-à-dire, en gros, c'est fou de penser comme ça. C'est-à-dire, pourquoi moi, je ne le mérite pas, mais un autre le mérite certainement. Et je suis... Parce que tout bêtement, je suis égocentré. Je me dis, moi, j'ai un fils qui a 7 ans. C'est pas normal, il a besoin de son père. J'ai une femme qui est jeune, j'ai 28 ans. En gros, bien évidemment, je souhaite pas la mort de qui que ce soit. Mais j'aurais préféré que ce soit un autre. Et je suis resté donc plusieurs cures comme ça. Et à la troisième cure, moi, je sais que je vais un peu mieux. On va dire un peu mieux. Et j'ai une idée... c'est fêter l'anniversaire de ma femme dignement. Je peux rien organiser, ils ont tous compris que je pouvais rien organiser. Mon petit frère, qui à l'époque, fan de rap comme son grand frère, a des platines. Il vient avec des caddies. Il met les platines dans les caddies juste pour que les gens aient de la musique le jour de l'anniversaire de Laure. Moi, ça me paraît fou, quoi. L'anniversaire arrive. Je sors la veille, les gens sonnent, je les vois, ils viennent avec des pizzas, c'est eux qui ramènent tout. Ils ramènent, ils ont cette délicatesse-là, c'est-à-dire qu'ils viennent même avec des sacs poubelles pour qu'il n'y ait plus rien dans la maison. Ils me passent le balai, quoi, ils passent le balai parce que moi je suis pas capable. En gros, c'est une soirée de rêve. Et moi, comme un gars malade, je suis allongé sur le canapé, je vois, parce que j'ai plus de force, je peux plus marcher. Et à vivre comme un rêve. Je vois les gens faire la fête, c'est assez relatif, avec un gars qui est en train de mourir, peut-être dans l'appart. Mais en tout cas, tout le monde est là pour amener une énergie positive. Quand je suis hospitalisé, donc en service dit normal, on peut aller à la cafétéria. Et c'est mon plaisir absolu, c'est de descendre, boire un café que je prendrai plus ou moins en entier, c'est pas grave, je suis au milieu de la vie. Alors bien sûr, on est tous malades, on est tous dans un sale état, mais il y a énormément de vie, c'est des moments de vie tout simples, quoi. Et je tombe un jour sur le professeur, il s'appelle Zahar. Et je lui dis, monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Et il me dit, non, vous êtes sauvé tout seul. C'est-à-dire qu'en plus, ils ont cette dignité-là, cette humilité-là à faire croire aux malades que c'est eux qui s'en sortent seuls. C'est pas mal quand même. Et je rencontre plein de malades. C'est-à-dire qu'on a des chambres de trois à l'époque. Et on se fait des potes de... Parce qu'on vit le même enfer. Moi, 28 ans, j'ai pris une leçon de vie. Vraiment. Alors il faudrait peut-être commencer par ça. Voir la mort pour comprendre que la vie est précieuse. Très tôt. Je suis un mec de 28 ans qui est un peu fougueux. Je sais que le médecin me parle de chimiothérapie et me parle de ce qui est inévitable, c'est la perte des cheveux. Et je sais pas, mais j'étais vraiment un petit con, prétentieux, je pense. Et je lui dis, vous savez, moi, avec moi, parce que j'ai cette phrase de débile profond qui dit, avec moi, les cheveux tomberont pas. J'ai pas cette humilité-là encore. Alors, je crois que toute la partie hospitalisation m'a pas fait changer du jour au lendemain. Ça a été un travail beaucoup plus long que ça.
Je me suis ensuite ouvert à la lecture. Je n'avais jamais, en tant qu'adulte, ouvert un livre de ma vie. J'ai lu La chimiste de Paulo Coelho à l'hôpital. Et j'ai compris que je ne détenais pas la vérité, quoi. Concrètement, maintenant, je me remets plus facilement en question. J'accepte l'autre, en fait. Donc je crois que je suis à ma 4e ou 5e cure de chimiothérapie et on m'annonce que la tumeur a tellement été réduite qu'on peut m'opérer. Quand on me dit « on va t'opérer », pour moi c'est « tu vas guérir, tu vas être soigné, c'est fini ». Et je retourne à la maison. Mon quotidien n'est pas folichon. Ma priorité, c'est d'aller aux toilettes seul. Parce que de mon canapé au cabinet de toilette, il y a, je crois, 3-4 mètres. C'est déjà une victoire en soi. Ensuite, Jordan a été présent comme un petit garçon de son âge à nous raconter ses grands soucis de copains d'école et de relations avec sa maîtresse. Et pour moi, c'est rassurant et délicieux d'entendre ça, quoi. Doucement, la vie reprend. J'ai qu'une envie, c'est d'aller voir Bigatti Gianni, qui est entraîneur de Muay Thai et qui m'avait pris sous son aile à l'époque. Il faut imaginer, le gars, il est champion de France à l'époque de Muay Thai, champion d'Europe, champion du monde. Et vu que c'est des sports où l'argent n'est pas roi, il est vendeur dans un magasin de sport. Et on va aller le voir dans son magasin. Je lui dis, tu me reconnais, Tidjani, ou pas? Il me dit, mais bien sûr. Mais vous savez, pour me rassurer, oui, bien sûr, Eric, je te reconnais. Et il a une phrase qui est restée longtemps.
Eric, t'as peut-être qu'un combat. S'il te plaît, celui-là, gagne-le.
Longtemps, quand j'ai eu des coups durs, pendant les hospitalisations, j'avais ça en tête. Il y a un champion du monde quand même qui t'a dit « S'il te plaît, gagne ton combat ». Donc j'étais boosté pendant très longtemps. Mais ce mec-là, en tout cas, il m'a fait croire en mes capacités. Et il n'y a rien de mieux pour la guérison, c'est de croire en soi un peu. Et donc, je reprends la kiné fonctionnelle. Et au bout de peu de temps, je fais du rameur chez mon kiné. Je fais du vélo ensuite chez mon kiné. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris des baskets que j'avais. Et j'ai été faire un footing de 5 minutes. Vous ne pouvez pas savoir la sensation de bonheur et de liberté que j'ai éprouvée. C'est-à-dire que mon corps me refaisait avancer. Et donc un an après avoir réappris à respirer et marcher, je me suis inscrit à un semi-marathon, c'est-à-dire 21 km. Mais j'ai enfin mon corps qui reprend sa place. Mais en tout cas, mentalement, ça m'aide. Et ça m'aide à me reconstruire parce que quelque part, pour vous situer un peu, à l'époque, je perds mon boulot. C'est-à-dire qu'avec le cancer que j'ai, les cicatrices que j'ai, il m'est interdit de lever du poids, il m'est interdit de piétiner parce que j'ai des varices plein les jambes dues à la chimiothérapie. Donc je perds mes repères, même mes repères sociaux, je les perds. On est un couple jeune, on a pris des crédits à la consommation, et le forfait hospitalier, il n'y a qu'une mutuelle qui vous le prend en charge. Et à 28 ans, moi j'avais autre chose à penser que de prendre une mutuelle. Ça peut paraître con pour certains, mais c'était pas ma priorité d'avoir une mutuelle, j'étais pas malade. Donc il y a la maladie, mais il n'y a pas que la maladie, on perd tout. Et c'est l'espoir qui m'a fait avancer tout le temps, toute ma vie. Alors, en tout cas, une certitude que j'ai quand je survis à mon cancer, c'est que ma femme m'aime. Et ça fait la différence dans ma petite tête de jeune adulte. Et encore une fois, on va à l'essentiel. Moi, j'ai perdu plein de copains à l'époque parce qu'on n'est plus formaté pareil. On n'a pas vécu les mêmes choses et je les comprends. Et c'est ainsi. À une période, ma femme et moi avions comme entourage que des vieux. C'est-à-dire qu'on avait des couples qui pouvaient nous comprendre. Ils avaient tous plus de 60 ans et pouvaient quelque part nous comprendre. Alors maintenant, on a des amis même plus jeunes que nous. Mais à l'époque, Les gens de notre génération étaient dépassés par tout ce qu'on avait vécu, c'est aussi simple que ça. Et donc en 2003, Laure, qui a de la famille dans le Var, me propose d'éventuellement déménager et partir dans le sud de la France. Et on emménage à Méreuil. Je rêve enfin d'une vie meilleure, d'éventuellement retravailler. J'étais sûr que j'allais m'en sortir par le biais du travail. C'était un autre travail, certes, mais j'allais m'en sortir. La chimiothérapie rend stérile. Et on a cette chance incroyable, c'est qu'en 2006, donc, Laure tombe enceinte. Elle accouchera le 20 juillet 2007 d'un petit Théo. Et comme un con, quand je comprends qu'il est cancer, je dis à ma femme, la boucle est bouclée. Je ne savais pas qu'il allait tomber en malade 2 ans et demi après. Théo fera jusqu'à plus de 10 crises d'épilepsie par matinée à la crèche. La crèche nous appelle. Alors forcément, on va aux urgences à la Timone, à Marseille. Et il s'avère que Théo a une tumeur au cerveau. Alors le médecin me reçoit. J'entends qu'il a une tumeur au cerveau, mais je ne sais pas. Si, je crois que je suis dans le déni. En tout cas, je ne comprends pas. Et j'ai ce réflexe-là, dire, mais on lui donne quoi comme traitement ? Moi, pour moi, j'ai plus pris comme info épilepsie plutôt que tumeur. Et le médecin insiste. À force d'insister, j'ai compris que mon fils, qui a 2 ans et demi, a une tumeur au cerveau. Notre énergie, à Laure et moi, en tout cas moi je le conçois comme ça à l'époque et elle aussi forcément, c'est d'être à son chevet. Je vois donc à travers des annonces dans la fonction publique, en tout cas pour laquelle je travaille, un poste en 3-8 à pourvoir. Je sais très bien que si je postule et si j'arrive à travailler en 3-8, j'ai du temps pour Théo. Trouver du temps pour être au chevet de son gamin. Et lutter, faire bloc. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui explosent quand un enfant tombe malade, et je peux le comprendre. Laure gérer le quotidien à l'hôpital et avait des soucis que moi, j'avais pas. Moi, j'étais au boulot, mais c'est très compliqué. Moi, je sais qu'il y a un collègue de travail qui, le lendemain, quand je sais que Théo a fait des crises d'épilepsie, il a une tumeur au cerveau, il me dit « Oh, j'ai failli t'envoyer un texto hier pour savoir comment allait ton petit. » Je l'ai mal pris. C'est-à-dire, envoie-le. Fais pas chier, envoie-le, quoi. Et donc, j'étais dans une humeur massacrante. Alors, à l'époque, je peux pas virer dingo, c'est impossible. Je suis rempli d'espoir pour Théo aussi. Je sais qu'il est malade, mais j'ai confiance en la médecine. Je sais qu'il est malade, mais c'est pas... Alors, on s'accroche à chaque bonne nouvelle. Moi, quand le Toubi me dit « il a une tumeur au cerveau, mais elle est opérable », je prends l'info positive. Elle est opérable. Donc, en gros, tu vas pas te plaindre. Les médecins vont l'opérer. Je vous garantis qu'on angoisse. Qu'on angoisse énormément quand votre enfant descend au bloc et vous savez qu'il va revenir dans 6-7 heures. Dans quel état, vous ne savez pas. Et ça, c'est très dur à gérer. Mais on s'est jamais plaint, je crois. Alors actuellement, Théo a 15 ans. Il suit une scolarité normale, il est guéri et il va bien. C'est un enfant différent. Sa différence fera sa force, j'en suis convaincu. C'est un enfant unique, tourné vers les autres. Il est bienveillant. Alors, oui, l'oncologue, on y va une fois tous les 2 ans, je crois, à l'heure actuelle. Mais on a peur. Ça sera une vie à avoir quelques angoisses. Et puis, ça n'empêche pas d'être heureux. Ça n'empêche pas de vivre en toute insouciance de temps en temps. Malgré tout ça, la vie est belle, quoi.
Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Müller. Réalisation Paul Berthiaud. Production Naomi Titi. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse apreslapluie@binge.audio ou sur le compte @apreslapluiepodcast sur Instagram.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.